Cinquième cours sur donner et recevoir. Alors, on a déjà bien avancé dans ce cours, mais on a encore fort à faire. À propos des finances, je vous rappelle que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons prospères à tous égards. Et je vous ai montré que la prospérité concerne les finances, mais pas seulement les finances. Alors, nous avons vu la définition de la prospérité. D'ailleurs, c'est un texte sur lequel nous allons retravailler aujourd'hui, dans 2 Corinthiens chapitre 9. Ensuite, nous avons vu que la prospérité, c'est avancer, avoir assez, avoir du succès, réussir, être dans l'abondance. Et la pauvreté, c'est quoi? C'est le manque, insuffisance, destitution, manquer en fait de tout. On a vu que Dieu se révèle dans sa parole en étant celui qui est El Shaddai. C'est comme une maman qui nourrit, qui pourvoit, qui satisfait le tout suffisant. Nous avons vu aussi Jéhovah Jiré, un autre nom, qui nous dit que Dieu voit à l'avance nos besoins, qu'il les connaît et qu'il y pourvoit. Donc, il n'y a pas la peine de s'inquiéter là-dessus. Alors ensuite, on s'est posé la question à propos de Jésus, parce que souvent, malheureusement, il y a tout un tas de gens qui lèvent des boucliers. Quand on commence à parler de prospérité financière, les gens commencent à dire « Ah oui, mais attention, Jésus était pauvre, donc tous les chrétiens doivent être pauvres. » Et en fait, on s'est aperçu, en étudiant plus précisément le ministère terrestre de Christ, que Christ était très loin d'être pauvre. Nous avons vu que sa naissance était entourée de trésors, qu'ensuite, il ne s'est jamais comparé à un pauvre, mais il a toujours dit « vous les pauvres » à plusieurs reprises, ou « vous avez les pauvres avec vous, mais moi vous ne m'avez pas toujours », etc. etc. Donc Jésus ne s'est jamais considéré comme un pauvre. Ça, on a clairement vu ces choses. On a vu qu'il y avait une bourse dans le ministère de Jésus, on a vu que Jésus soutenait les pauvres avec son ministère, donc les pauvres ne soutiennent pas les pauvres en général. Si vous avez rien à manger dans votre assiette et que votre assiette, vous n'avez pas une assiette mais vous avez une demi-assiette, hein, l'assiette est déjà craquée en deux, eh bien, vous ne pouvez pas beaucoup partager grand-chose avec d'autres, bien évidemment. Alors, les pauvres ne soutiennent pas les pauvres. Par contre, des gens qui ont une capacité et qui sont déjà pourvus peuvent aider les pauvres, bien évidemment. Donc, on a vu un certain nombre de choses, je ne vais pas y revenir, dans la façon dont Jésus exerçait son ministère, des femmes riches qui soutenaient son ministère. On a vu que Jésus avait un ministère itinérant et je vous ai expliqué qu'un ministère itinérant coûte beaucoup plus cher qu'un ministère fixe, c'est normal. Il est plus facile de payer un loyer quelque part ou d'être propriétaire d'un endroit où vous exercez le ministère plutôt que d'avoir un ministère itinérant où vous devez constamment loger à droite et à gauche, payer des chambres d'hôtel ou autres, avoir des logements de droite et de gauche, de préparer une nourriture qui est en dehors de la maison, etc. ou d'être obligé de manger à droite à gauche dans des restaurants ou quoi que ce soit pour vous nourrir. Ça vous coûte souvent beaucoup plus cher et les voyages coûtent cher, c'est normal. À tout le monde, ça coûte de l'argent, sachant que dans les villes, vous l'avez vu vous-même, quand on entrait dans chaque ville en Israël, il fallait payer quelque chose, un droit de passage. Donc, ça revenait cher de voyager. Jésus soutenait 12 personnes à temps plein et certains, on l'a vu, avaient certainement bon appétit. Nous en avons fait cette remarque. Bon, donc, c'est clair que Jésus dépensait de l'argent. Il fallait bien qu'il trouve cet argent. Et je vous ai montré que Dieu n'est pas un faussaire. Il ne fait pas pleuvoir des faux billets de banque du ciel vers la terre, mais que le ministère de Christ était soutenu, qu'il y avait une bourse, que c'était une habitude, etc., etc. Ensuite, nous avons vu la mentalité de Dieu, c'est ce que nous avions vu la dernière fois. Et ça, c'est une chose importante de voir comment, en fait, Dieu voit les choses et qu'est-ce qu'il nous a réservé dans le ciel. Et vous avez vu et je vous ai montré que certains chrétiens auront des chocs culturels terribles le jour où ils vont aller au ciel. Les routes sont pavées d'or, tout est en perles rares, tout est en pierres précieuses, etc., etc. Tout est absolument extraordinaire et magnifique et superbe. Et en fait, les chrétiens qui ont une mentalité de pauvre vont être choqués. Donc, je vous ai clairement montré une chose. C'est que en aucun cas, Dieu veut que ses enfants soient dans la pauvreté. Être dans la pauvreté, c'est vraiment être un mendiant. Et il est quand même terrible de voir des chrétiens qui sont en train de mendier auprès d'un converti. Franchement, c'est pas normal, ça fait mal au cœur. Et ce n'est pas une condition dans laquelle Dieu veut que nous restions. C'est pour ça que dans l'Évangile, il y a quelque chose de particulier où quand on commence à mettre en action sa foi, notre situation financière peut changer et elle doit changer. Alors nous avions vu aussi l'aspect de la dîme et on a fait quelques remarques à propos de différents passages sur la dîme. C'est là où nous nous en étions arrêtés la dernière fois et je vous ai montré d'abord que la dîme a des mentions, donc on mentionne la dîme avant même la loi de Moïse parce que là encore, quand on commence à parler de la dîme, il y a des gens qui disent attention. Là, c'est pour l'Ancien Testament, c'est pour la loi de Moïse. Et je vous ai montré que Abraham, qui c'est la première mention de la dîme que nous avons dans Genèse 14, va donner la dîme à qui? À un sacrificateur. Je vous ai montré que à cette époque-là, on trouve des traces de personnes qui sont ointes par Dieu en tant que prophète, Abraham entre autres était prophète, et c'était pas le seul prophète qui a vécu avant la loi de Moïse, que Dieu avait oint, et il y avait aussi des sacrificateurs, apparemment, en tout cas Melchisédek en était un, où des gens venaient pour amener des sacrifices, apparemment, pour que le sacrificateur les représente devant Dieu. Donc il y avait une certaine onction, apparemment, à cette période-là aussi, avant la loi de Moïse, et nous avons tout un tas de choses que Dieu va préciser dans la loi de Moïse. Et souvent, nous l'avons remarqué d'ailleurs avec l'alliance par le sang, nous avons le même principe. Dieu donne quelques principes généraux au départ, avant la loi, et la loi de Moïse va faire quoi ? Va préciser complètement et Jésus va réaliser. Vous voyez, donc c'est là où il faut comprendre un peu le développement de la connaissance de Dieu sur la terre et par rapport aux hommes. On voit que tout ce qui est avant la loi de Moïse, il y a certains principes généraux que Dieu donne, l'alliance par le sang, la dîme, parce que la dîme, on s'aperçoit qu'elle est divine. Jacob, quand il s'en va, il est loin de Dieu alors qu'il a été éduqué dans une famille qui connaissait Dieu. Il fiche le camp de sa famille parce qu'il a fait un sale coup à son frère en lui volant la bénédiction. Il fuit. Il est vraiment dans un temps où il est loin de Dieu, hein, parce qu'en général, quand on est menteur, trompeur et tout ce qu'on veut, on est loin de Dieu. Hein, on peut pas être près de Dieu et être dans le péché comme ça. Et il a peur un jour, il se retrouve vraiment dans une situation où il se dit « Mais si ma vie se termine là, qu'est-ce que je vais devenir ?» Et là, il commence à faire un vœu à Dieu en disant « Seigneur, si tu me ramènes en sécurité de cet endroit, si je trouve de quoi manger, si je peux vraiment m'en sortir réellement, alors je vais te servir, je vais t'aimer, je vais m'attacher à toi, etc. etc. » Et d'un seul coup, grande révélation, et je te donnerai la dîme de tout. Est-ce que Jacob a appris ça tout seul? Non, bien évidemment. Nous savons qu'il y a des choses qui ont été transmises oralement, et ces choses viennent originellement de Dieu, même si ça ne nous est pas dit clairement. Comme l'alliance par le sang, je vous l'ai montré clairement dans le cours, il n'y a rien qui nous dit que Dieu a pris Adam par la main, lui disant « Voilà mon petit, à partir d'aujourd'hui, comme tu as péché, tu devras faire des sacrifices pour t'approcher de moi. » Mais on voit très bien que c'est une pratique divine et une pratique obligatoire pour s'approcher de Dieu. Donc la dîme va représenter ça. Alors on a vu certains passages à propos de la dîme, une précision dans la loi de Moïse. On s'aperçoit que la dîme était destinée à deux choses. D'abord pour soutenir les Lévites. Les Lévites, c'était la tribu qui était réservée par Dieu, qui n'avait pas d'héritage dans le territoire d'Israël, nous le savons, qui était réservée par Dieu pour faire quoi ? Pour faire le service, c'est-à-dire pour permettre aux Israélites de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir être bénis par Dieu, de pouvoir rendre un culte à Dieu. Ça, c'était le rôle des Lévites. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu les avait disséminés dans tout Israël, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas un territoire particulier comme les différentes tribus. On voit que chaque tribu, quand vous regardez une carte d'Israël au moment où le pays a été partagé, eh bien chaque tribu va s'implanter dans certains endroits. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que ces Lévites étaient soutenus comment ? Ils étaient soutenus par les dîmes du peuple d'Israël. Donc à chaque fois qu'il y avait des lieux de culte où on pouvait faire des sacrifices, il y avait des Lévites qui servaient, et ces Lévites étaient soutenus. Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui avaient des familles, c'était des gens donc qui avaient des enfants, c'était des gens qui pouvaient quand même avoir le droit d'avoir un certain endroit, acheter une maison et avoir une propriété. Ça leur était pas interdit. Ce que Dieu avait dit, c'est « vous n'aurez pas de territoire ». Mais le Lévite avait le droit d'acheter des choses, d'être propriétaire. Ça lui était pas interdit. Il faut bien faire la part des choses entre le territoire et l'endroit. Bon, donc le Lévite devait pouvoir vivre correctement, c'est normal. Alors, je vous ai montré aussi, bien sûr, qu'il y avait des prophètes qui n'étaient pas forcément issus de la tribu de Lévi, qui étaient donc loin de Dieu, et eux aussi étaient soutenus de cette façon-là, où les gens venaient, quand ils prophétisaient, quand ils avaient besoin d'une parole de Dieu, d'une direction de Dieu, les gens venaient, le peuple d'Israël venait, et donnait des offrandes, donnait des dons aux prophètes pour soutenir son ministère de prophète, pour que ce prophète puisse vivre correctement. Alors, une autre chose qu'on a remarqué, c'est que la destination de la dîme était pourquoi ? Elle était pour qu'il y ait de quoi faire dans la maison de Dieu, pour l'entretien de la maison de Dieu, pour le développement de la maison de Dieu. Ça, c'est clair. C'est marqué clairement dans Malachie, entre autres. On voit aussi dans la reconstruction du temple. Dieu reproche à son peuple. On dit, attendez, vous vous faites des belles maisons, et puis moi, ma maison, vous n'en faites aucun cas. Et on voit que c'était une deuxième destination à propos des dîmes et aussi, bien sûr, des offrandes. Alors, par contre, on a vu un parallèle avec 1 Corinthiens 9. Parce que dans 1 Corinthiens 9, c'est vraiment le passage typique où Paul parle du droit, entre guillemets du droit, oui, on peut le dire, du droit, selon le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans l'Église, de ce que ceux qui déclarent l'Évangile puissent vivre de l'Évangile. C'est-à-dire ceux qui sont dans le ministère ont le droit d'être soutenus par le ministère. On fait en parallèle donc le cours sur le ministère et je vous ai montré clairement une chose, que le ministère est quelque chose de surnaturel. C'est le fruit, un ministère vit du fruit qu'il porte. Ça, c'est très important. Et Jésus vivait du fruit qu'il portait. Rappelez-vous, hein, quand on a étudié ce passage dans Luc, où il est dit que le ministère de Jésus était soutenu par des femmes de haute dignité ou des femmes riches. La Bible nous en parle. C'était des femmes qui avaient été touchées par qui? Par quoi? Par le ministère de Christ. Et en retour, il y avait un soutien financier. Et d'ailleurs, nous verrons aussi que Paul va être soutenu, entre autres par l'église d'Antioche et par l'église aussi de Philippe. Dans son ministère, Paul va être soutenu, à plusieurs reprises d'ailleurs. Nous allons en parler, nous verrons certaines mentions. Mais avant cela, donc, j'aimerais qu'on regarde un petit peu les différentes qualifications pour notre prospérité. Parce que, bon, on parle de donner sa dîme, on parle de donner des offrandes, c'est bien. On va d'abord peut-être donner une définition entre la différence entre la dîme et les offrandes. Alors, notez d'abord que la dîme représente le dixième de nos revenus. La dîme représente le dixième de nos revenus. Alors, quand on parle de revenus, on parle de ce que nous touchons. Par exemple, un commerçant, il y a une différence entre ce qu'il va vendre, son chiffre d'affaires, bien sûr, et son bénéfice même. Et dans son bénéfice, il y a une partie où il doit encore payer le loyer de son commerce et il y a un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui revient finalement dans sa poche? C'est ça qui est important. D'accord? Le revenu, c'est ça. Le revenu, c'est pas le chiffre d'affaires. Parce que alors, sinon, si c'était 10% du chiffre d'affaires, ça serait pas facile. Faut dire ce qui est. D'accord? Donc, le revenu, c'est vraiment ce qui vous revient. C'est ce avec quoi vous allez vivre. Si vous avez un business, c'est la même chose. Ça représente le revenu de ce que vous touchez. C'est-à-dire, si vous avez un business, si vous avez un salaire, ce que vous donnez au Seigneur, c'est le dixième de votre salaire. Si à la fin de l'année, bien sûr, vous faites une prise de bénéfice différente, ça aussi, c'est un revenu. D'accord? Si vous avez un business. Si vous avez un commerce, eh bien, je vous dis, c'est la différence entre, le prix d'achat, prix de vente, et puis vous dégrevez, vous enlevez donc tout ce qui va être charge à côté. Et vous regardez ce qui vous reste. Alors, là aussi, on va voir, parce qu'il y a des gens qui disent, la dîme, c'est 10%, donc je vais faire un calcul très précis. Bon, on va voir l'attitude du donneur après, d'accord? Là, on donne d'abord une définition générale, et après, on voit l'attitude du donneur. Des fois, ça m'amuse un peu parce que... on en parlera plus tard. Mais on voit, par exemple, des chèques où des gens mettent, par exemple, ils vont mettre 548 francs. Alors, derrière tout ça, on se dit, OK, ça veut dire que ces gens-là, ils ont bien calculé le dixième avec une calculette. Bon, donc, ce que je vous expliquerai après, c'est bien sûr l'attitude du donneur, d'accord? Bon, mais je vais faire cette petite parenthèse, parce que je trouve parfois que c'est un peu humoristique. Donc, l'idée, c'est le dixième de nos revenus, d'accord? Bon, d'abord, on donne des définitions, puis après, on va rentrer un peu dans les choses un peu plus pratiques. Bon, alors, à côté de la dîme, quand on parle d'offrande, une offrande, c'est quelque chose qui est volontaire. Donc, une offrande, c'est quelque chose qui est volontaire, on verra que la dîme aussi est volontaire. Mais une offrande est quelque chose de volontaire et que l'on donne dans un but particulier. Et que l'on donne dans un but particulier et qui va au-dessus de notre dîme. Et qui va au-delà, au-dessus de notre dîme. Que là, je veux faire une parenthèse qui est claire, vraiment, que vous devez apprendre à respecter. Alors, ici, il y a des gens de différentes églises et c'est très important. La dîme, nous la donnons à l'œuvre dans laquelle nous appartenons, c'est-à-dire à l'église. À l'église qui te nourrit, à l'église locale. Ça, c'est important de le comprendre. Dans le Nouveau Testament, c'est un principe évident. Même si c'est pas clairement marqué, c'est un principe évident. Nous donnons la dîme là où nous sommes nourris spirituellement et régulièrement. Un chrétien, il fréquente une église, il fait partie d'un corps local. Et ce corps local, c'est son église locale. Et quand tu donnes ta dîme, tu dois la donner en tant que membre du corps local. Parce que tu es là, tu écoutes la parole de Dieu, tu es nourri par la parole de Dieu, tu viens louer ton Seigneur, tu viens dans un endroit qui n'est pas gratuit. Pour toi, c'est peut-être gratuit si tu veux, mais c'est pas un endroit gratuit. C'est un endroit où qu'on doit louer ou que peut-être on a acheté, sur lequel il y a peut-être encore des dettes à payer. La chaise sur laquelle tu t'assois, il y a bien quelqu'un un jour qui l'a payé. C'est l'église, c'est ton église locale. Les instruments, que toute la sonorisation, tous les instruments de musique, ils ont bien été payés quelque part. Et ça a été l'église qui a payé ça. Et les chrétiens doivent en être conscients. Tu sais, il y a beaucoup de chrétiens consommateurs, et très exigeants d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas leur dîme, mais qui sont très « Oh, là, c'est pourri la sonorisation ici. Oh là 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 !» Et puis alors, quand le panier d'offrande passe, moi, donner ma dîme, non, c'est l'Ancien Testament, ça. Hey, regardez où vous voulez semer, on va parler de tout ça. Mais c'est très important. Il y a des gens, ils sont étonnants, ils sont très exigeants, alors il leur faut tout, mais alors, dans leur portefeuille, avant d'aller à l'église, en général, ils préfèrent laisser l'argent à la maison, au cas où ils seraient tentés à donner une offrande. Vous savez, les gens qui ont des mentalités comme ça, ils avanceront jamais. Et ça, il faut être libéré de ces mentalités-là. Parce que franchement, s'il y a bien quelque chose que le diable aime, justement, c'est ce genre d'attitude. Parce qu'il sait très bien que s'il tient un chrétien dans des difficultés financières ou dans la pauvreté, ou même un chrétien qui a un certain nombre de biens, qu'il arrive à vraiment étrangler son portefeuille concernant ce que la personne peut donner à l'œuvre de Dieu, il sait que s'il arrive à enchaîner beaucoup de gens comme ça, hein, on parle de liens, mais ça c'est vraiment des liens, des gens qui sont enchaînés par leur façon de ne jamais vouloir donner à l'œuvre de Dieu. Donc une offrande, c'est quelque chose que tu fais en supplément. Là, tu peux le faire. Tu visites une autre église, par exemple. Si tu es un donneur, tu peux donner une offrande dans l'autre église. Et c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Tu peux donner à un serviteur de passage une offrande. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, qui disent « Mais je voudrais donner la dîme là. » Moi, des fois, il y a des gens qui viennent dans notre église et qui disent « Pasteur, je voudrais donner la dîme dans cette église-là. » Et attendez, est-ce que vous venez juste une fois comme ça ? Je dis « Non, non, donnez votre dîme à votre église. » Et ça, c'est normal. Je dis « Par contre, si vous voulez faire une offrande, faites une offrande dans notre église, oui. » C'est pareil, s'il y a des ministères qui vous bénissent par Internet, par toutes sortes de choses, il y a des gens qui donnent comme ça, vous voyez. Il y a certains qui parlent de donner la dîme dans leur ministère, je suis désolé, non. La dîme revient à l'église locale. La dîme est là pour soutenir et développer l'église locale. L'œuvre dans laquelle vous sentez que vous faites partie du corps. Ça, c'est très important. Si par contre, on donne une offrande, c'est quelque chose qui est supplémentaire. Quelque chose qui doit être supplémentaire. Quelque chose qui se doit être supplémentaire. C'est-à-dire, tu choisis pour différentes raisons. Tu bénis un serviteur de Dieu là, tu bénis une œuvre ici, etc., qui n'est pas ton église locale. Mais ton église locale, c'est là où tu te reconnais comme le corps, c'est là où c'est ton corps local, où tu fréquentes, tu es supposé être nourri là, puisque tu appartiens volontairement à cette église locale. Donc ça, c'est important, c'était une petite précision que je voulais donner. Alors, on parle de don, on parle de savoir donner, parce que la Bible nous en parle. Parce qu'on ne peut pas parler de prospérité si nous-mêmes, nous n'avons pas notre rôle. C'est partout pareil. Vous avez vu, vous avez suivi les cours sur la foi, vous savez que Dieu a son rôle, mais nous, nous avons notre rôle aussi. Et il est important que chacun puisse comprendre son rôle. Dieu comprend toujours son rôle, il exécute toujours sa parole, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, nous les êtres humains, nous les chrétiens nés de nouveau, nous devons comprendre notre rôle. On a vu que quand on veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, on a un rôle à jouer. On a vu que quand on veut être guéri, on a un rôle à jouer. On a vu que quand on veut expérimenter telle ou telle chose de la part de Dieu, nous avons un rôle à jouer, une collaboration avec Dieu. Ben dans les finances, c'est la même chose. Il y a une collaboration. Et ça nous est extrêmement bien décrit, justement, dans 2 Corinthiens, chapitre 8 et chapitre 9. Donc ça, ce sont vraiment les deux chapitres qui sont typiquement réservés aux finances. Hein. Paul parle des finances dans ces deux chapitres. Donc tout ce que Paul va déclarer ici va concerner l'argent et les chrétiens, les finances et les chrétiens. Alors on va lire ces chapitres parce que c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de remarques à faire. Bon, on va parcourir certaines choses dans lesquelles on pourrait être un peu plus long. On va être un peu plus long sur certaines remarques, un peu moins long dans d'autres remarques. Mais c'est important. Alors d'abord, on va lire le cœur, on va lire le centre. C'est-à-dire dans 2 Corinthiens 9, on va lire le centre, là où Paul nous amène. Mais après, on verra un peu tout autour qu'est-ce qui a gravité pour que Paul nous amène ici. Alors regardons au verset 6 de 2 Corinthiens 9 d'abord. Il est dit en fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Rappelez-vous, 2 Corinthiens 8 et 9 parle de finances, parle d'argent. Celui qui sème peu moissonnera peu, Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice, vous serez de la sorte enrichi à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoira aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alors, ça, c'est vraiment le cœur de ces deux chapitres. C'est vraiment là où Paul nous amène. C'est là où il y a la définition de la prospérité. C'est là où il va nous montrer des principes de la prospérité, des lois spirituelles concernant notre prospérité. Donc, on a déjà vu cette définition, mais on reviendra dessus et on va revenir dessus. Mais il y a pas mal de choses que je vais vous donner d'abord dans 2 Corinthiens 8 et 9. Alors, il faut que vous sachiez que 2 Corinthiens 8 et 9, ça concernait une immense collecte que Paul voulait faire pour les pauvres de Jérusalem. Donc, ça allait être des offrandes. C'est là où cette collecte va être faite. Et il va y avoir beaucoup d'églises qui vont contribuer à cette collecte. C'était pour les pauvres de Jérusalem. D'ailleurs, vous devez avoir, juste au-dessus du chapitre 8, dans vos Bibles, des sous-titres qui parlent collecte pour les pauvres de Jérusalem ou pour les saints de Jérusalem, etc. En général, c'est ce qu'on a dans la plupart des Bibles. Alors, chapitre 8, au verset 1, Paul va nous montrer un certain nombre de contextes. Il va nous montrer un peu une mentalité, parce que on étudiera le cœur de ce passage, ça c'est très clair. On va parler que nos finances, c'est une semence. Comment nous devons semer, l'attitude du donneur, etc., etc. On va parler de tout ça parce que c'est important. On va parler de qu'est-ce qu'on doit aussi et qu'est-ce qu'on a le droit d'attendre en retour en tant que chrétien, selon la parole de Dieu. Mais aussi, ce qui m'intéresse un peu, c'est d'élargir et de voir un peu dans quel contexte ça a été écrit. Parce que c'est intéressant. Bon, là, Paul écrit aux Corinthiens. Et sachez que les Corinthiens, c'était une église qui était très riche. Corinthe, c'était une des villes les plus riches du bassin méditerranéen à cette époque-là. C'était une ville extrêmement commerçante. Environ à l'époque, on pense 700 000 habitants, c'est à peu près ce que les historiens nous disent. Et vraiment très, très prospère. Corinthe était un endroit, une ville très, très prospère. Ça marchait très bien. Le commerce marchait très bien. Les Corinthiens étaient des gens riches. La ville de Corinthe, c'était une belle ville. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, il reste des vestiges de cette époque-là. Et croyez-moi, il y avait des grands trucs qui étaient construits, des très très belles constructions dans cette ville qui existe aujourd'hui, je dirais, un monument historique. Parce que ça a été, bien sûr, au travers de ces 2000 ans, plus de 2000 ans d'histoire, il y a eu bien des choses qui se sont passées dans ces endroits-là du monde. Mais il reste encore un certain nombre de vestiges qui prouvent un peu l'opulence, c'est-à-dire la richesse de cette ville. Alors, il dit au verset 1, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifesté dans les églises de la Macédoine. » Alors, je vais vous expliquer. Quoique très éprouvés par des tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités, selon leurs possibilités, et je l'atteste même au-delà de leurs possibilités et de leur plein gré. Ils nous ont demandé, avec beaucoup d'insistance, la grâce de participer à ce service en faveur des saints. Et c'est plus que ce que nous avions espéré. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Alors, de quoi Paul veut parler ici? Bon, il parle de cette collecte, mais il parle de l'attitude de certaines églises et l'attitude d'autres églises. Ici, il nous parle des églises de Macédoine. Et si vous faites un peu une étude sur les Actes des Apôtres, vous verrez que Paul va passer en Macédoine dans son deuxième voyage missionnaire. La Macédoine étant une province de la Grèce. Et dedans, eh bien, il y a par exemple deux villes que vous connaissez. Il y a entre autres l'église de Thessalonique et l'église de Philippe, qui font partie donc de cette province de la Macédoine. Donc les Thessaloniciens et les Philippiens étaient concernés quand Paul écrit ici. Il y a une autre ville qui s'appellera Bérée aussi, dans laquelle Paul va aller. Vous trouverez ça dans Actes. Dans les Actes, Vous pourrez jeter un petit coup d'œil, donc, Actes chapitre 16 et Actes chapitre 17. Actes 16 et Actes 17, ce sont les villes de Macédoine que Paul va visiter, qu'il va évangéliser. Et cette province, donc, n'était pas très riche. Paul apparemment nous dit qu'ils étaient dans des difficultés financières assez importantes. Mais malgré cela, ces églises-là, nous dit ce passage, elles vont demander avec insistance à Paul de participer à la collecte. Pourtant, c'était des églises qui étaient apparemment pauvres, d'après ce que Paul disait ici. Et surtout des églises qui étaient dans une tribulation énorme. Si vous lisez Actes 16 et Actes 17, vous verrez que Paul à Thessalonique, il s'est fait jeter de la ville au bout de 3 semaines. Il est descendu à Bérée, un peu plus loin, quelques dizaines de kilomètres plus loin. Et quand il va là-bas, il commence à prêcher l'évangile, il y a des gens qui sont touchés. Et les Juifs de Thessalonique l'ont poursuivi jusqu'à Bérée pour le chasser, pour le persécuter encore. À Philippe, il s'est fait persécuter. À Thessalonique, il s'est fait persécuter. Et à Bérée, il s'est fait persécuter aussi. Il est clair que ces 3 églises, dont nous avons 2 pour 2 des épîtres, c'est-à-dire des lettres dans le Nouveau Testament, c'était des églises apparemment qui ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés de persécution. Et en général, quand vous êtes dans la persécution, c'est toujours un peu difficile. Surtout quand c'est pour un but que les païens appellent religieux. Et c'est clair, les cercles religieux sont comme ça. Ils acceptent les leurs et ils rejettent ceux qui ne sont pas des leurs. Et il est clair qu'un bon nombre de gens de ces 3 villes-là, des chrétiens, ont dû avoir du mal après, voulant se développer, ou voulant, certains faisaient peut-être du business ou du commerce, etc., qui rapportent en général le plus, ils devaient avoir un certain nombre de difficultés, même justement après, dues à cause donc de l'évangile. Parce qu'il y a eu des persécutions, et des persécutions qui n'étaient pas moindres. Vous pourrez lire Actes 16 et Actes 17 si vous n'en êtes pas convaincu. L'église de Philippe est une église assez intéressante, parce que Paul écrira, à la fin de l'épître, aux Philippiens, un certain nombre de choses à propos des finances. Des textes que nous aimons bien lire, mais c'est intéressant de creuser un petit peu plus pour savoir qui étaient ces gens. Regardons Philippiens. On aime bien lire Philippiens 4, 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. » Amen, alléluia. Oui, c'est bien, ce sont de très bons versets, mais lisons le contexte aussi. Lisons le contexte. Quand on fait un parallèle entre 2 Corinthiens, chapitre 8, les versets que nous venons de lire ici, et Philippiens chapitre 4, eh bien nous nous apercevons que les Philippiens, c'était vraiment des gens avec un grand cœur, pas énormément de moyens, mais qui avaient un cœur pour le Seigneur. Un grand cœur pour le Seigneur. Vous savez, parfois, c'est pas le tout d'avoir des moyens. Il y a des gens qui ont de grands moyens et qui sont radins. Et il y a des gens qui n'ont pas énormément de moyens, mais qui sont extrêmement généreux. La différence, c'est le cœur. C'est le cœur. Et les Philippiens, vraiment, Paul, à plusieurs reprises, vous voyez, il en parle dans 2 Corinthiens chapitre 9, et il va en parler dans Philippiens 4 aussi. Il va montrer le cœur de ces chrétiens de l'église de Philippe. Regardez verset 10. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi, c'est-à-dire à ce que ça recommence, votre intérêt pour moi, moi, Paul, apôtre. Il dit, cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait, c'est-à-dire vous aviez une bonne disposition, mais pour l'instant vous ne saviez pas quoi faire. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance, et tout et partout j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors là attention, prenez pas ces versets pour dire ça y est, Paul était quelqu'un qui était pauvre, non, Paul était quelqu'un qui était riche, mais qui a donné pratiquement, et je pense d'ailleurs qu'il a dû tout donner pour l'évangile. Je crois que je vous avais fait cette remarque la dernière fois. Paul a été enseigné dans une des écoles rabbiniques les plus cotées de l'époque. Donc c'est clair qu'il venait d'une famille très riche, très riche. Ce que Paul veut dire par là, c'est qu'il savait qu'en prêchant l'évangile, ben, il y avait des moments faciles et des moments difficiles. Je pourrais vous faire un petit cours sur le ministère là-dessus, ça serait très instructif pour bon nombre d'entre vous, et beaucoup de chrétiens aussi d'ailleurs. Alors, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. » Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine. Donc, Paul, je vous le dis, pour certains, vous n'avez pas bien étudié les actes encore, mais dans Actes 16, Paul va à Philippe, vous connaissez l'histoire du geôlier, où cette servante qui était possédée par un démon, qui suivait le ministère de Paul, Paul va chasser un esprit mauvais, cette servante va être libérée de cet esprit mauvais, et d'un seul coup, les maîtres de cette servante, qui avaient l'habitude de l'envoyer pour aller faire de la sorcellerie, pour faire de la divination, d'un seul coup se retrouvent avec un gros gain en moins. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent contre Paul, et ils s'arrangent pour mettre Paul et Silas en prison. Bon, ensuite, Paul et Silas sont miraculeusement délivrés de la prison, en tout cas pour un moment, parce qu'ils vont y retourner pour passer la nuit après, pour le reste de la nuit. Il y a une église qui va naître, le geôlier qui voulait se tuer, il est évangélisé, toute sa famille se donne au Seigneur aussi. Une église va naître, alors qu'au début, c'était pas facile, où Paul avait été dans Philippe, il avait juste rencontré quelques chrétiens, un petit groupe de prière, où il y avait quelques femmes qui priaient, etc. Mais il n'y a pas grand-chose qui se sont passées au départ. Puis, au bout d'un moment, il est obligé de partir de Philippe, et il va à Thessalonique. Et à Thessalonique, il passe 3 semaines, et d'un seul coup, il y a un grand réveil dans la synagogue, mais pas du côté des Juifs, du côté des prosélytes, c'est-à-dire des Grecs ou des gens, ou d'autres nationalités qui venaient et qui voulaient appliquer la loi de Moïse pour, je dirais, être sous un certain bénéfice de la loi de Moïse, qu'on appelait les prosélytes. Et là, il va y avoir du remous, parce qu'il y a des gens qui avaient certains biens, entre autres des femmes d'une certaine dignité, qui ont écouté le message et ont voulu suivre Paul. Et là, les Juifs, ils ont commencé à se fâcher. Et ils ont persécuté Paul. Paul a dû fuir de Thessalonique, il a été à Bérée. Et ces Juifs-là, comme je vous le disais tout à l'heure, on l'ont poursuivi. Donc persécution sur persécution sur persécution sur persécution. Et ça n'a pas été facile. Et les Philippiens, ils ont tout de suite eu à cœur d'aider Paul. Alors, ici, il dit, donc vous savez comment, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, entra en compte pour moi, pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire. Paul revisitera ces églises-là dans son 3e voyage missionnaire. Car à Thessalonique, déjà, et à 2 reprises, vous m'avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche le don, mais ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, je suis comblé en ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Là, vous voyez, ça c'est la conclusion. Parce que souvent, il y a des gens qui citent ce verset comme ça, mais ils ne voyaient pas le contexte de ce verset. Là, c'était des gens qui avaient un bon cœur et qui donnaient pour soutenir le ministère de Paul, pour que Paul puisse continuer à prêcher l'Évangile dans des conditions difficiles. Et eux-mêmes, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 9, eux-mêmes, ces églises de Macédoine, donc entre autres l'église de Philippe, n'étaient pas des églises très riches. Corinthe, à côté, c'était l'opulence. Des gens qui avaient de grands biens. Mais ces 3 autres églises, c'était pas évident. Elles n'étaient pas extrêmement, extrêmement riches, loin de là. C'était des gens qui, bon, apparemment, avaient certaines difficultés financières, telles que Paul le disait. Alors, pourquoi je suis obligé d'un peu vous expliquer ça? Parce que je vais vous montrer que derrière le message de l'Évangile, il y a tout un aspect de notre prospérité, mais que notre prospérité a des clés. Et c'est ça qui est important à comprendre. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses. Ils se demandent toujours, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il faut donner à l'église? Pourquoi ceci? Pourquoi est-ce qu'on parle de la dîme? Pourquoi, etc. D'abord, nous avons vu qu'il y a une responsabilité. La responsabilité, c'est de faire avancer l'évangile. Et aussi, il y a un aspect où Dieu veut qu'au travers de nos dons, en pratiquant la parole de Dieu, nous puissions quoi faire? Sortir de cette pauvreté. Pour pouvoir être pourvus. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, d'accord. C'est bien de le confesser, mais il y a une pratique derrière tout ça. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Qu'est-ce que ces chrétiens ont fait? Ils avaient à cœur d'aider le ministère, d'aider l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un principe. C'est un principe évident. Quand quelqu'un a un bon cœur et qui dit « moi, je veux aider l'œuvre de Dieu », vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le monde entier, si chaque chrétien comprenait ces principes de la prospérité, il n'y aurait pas une seule église pauvre. Et je le dis et je le répète. Dans le monde entier, si les chrétiens de chaque église comprenaient ce principe, il n'y aurait pas une seule église pauvre. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup d'églises pauvres dans le monde, des églises qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement, qui sont tout le temps obligées de faire appel à l'extérieur quand ils le peuvent, parce que les gens ne pratiquent pas les principes de 2 Corinthiens, chapitre 8 et chapitre 9, de Philippiens non plus. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Certains, c'est par manque d'enseignement, qu'on soit bien d'accord. C'est pas une condamnation que je lance ici. Ce que je dis, c'est que c'est une réalité, triste réalité. Si chaque chrétien prenait sa responsabilité de donner sa dîme et de savoir pourquoi et comment il doit donner sa dîme, selon les principes de la parole de Dieu, il n'y aurait aucune église pauvre. On pourrait commencer même avec l'église la plus pauvre de la terre. Obligatoirement, il y aurait quelque chose qui se passerait au milieu du corps de Christ local si l'église est sur de bonnes fondations. Ça, je vous le dis parce que c'est la parole de Dieu. Mais malheureusement, dans les églises, nous avons beaucoup de gens qui sont comme dans Proverbe 14, 23. On va lire ça ensemble. Proverbe 14, 23. Proverbe 14, 23 nous dit « En toute œuvre se trouve du profit, mais les paroles toutes seules ne mènent qu'à la disette. » Ça, c'est une vérité. Il y a beaucoup de gens qui aiment parler, mais il y a peu de gens qui aiment agir. Et concernant les finances, il y a une action. Il y a une action. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Ah ça, parler de Dieu, parler des choses de Dieu. Oui. Mais il y a aussi une action. Prier pour que Dieu te donne ci, te donne ça, c'est très bien. Mais si tu n'agis pas sur sa parole, et on verra, je vais vous donner des exemples précis, scripturaires. On verra la différence entre quelqu'un qui va vivre un miracle en temps de crise pour sortir d'une situation catastrophique, et on a des exemples dans l'Écriture. Et je vous montrerai à quoi mène ce genre de miracle. Et on verra aussi des gens qui ont prospéré surnaturellement, selon Dieu. Je vous donnerai des exemples dans la parole de Dieu. Je vous montrerai aussi que l'attachement à Dieu doit obligatoirement déboucher sur notre prospérité. Je vais vous montrer différents cas de figure. Parce que beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans des histoires, dans des problèmes difficiles, il n'y a qu'une chose qu'ils font, c'est dire « Seigneur, j'ai besoin de ça, tu sais combien j'en ai. » Et c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ça, vraiment. C'est le genre de prière vraie. Vraie, d'accord, mais qui manque de l'essentiel. Qui manque d'une certaine pratique. Qui manque d'une certaine connaissance de principes scripturaires qui permettraient à ces gens de sortir de problèmes financiers. Et ça, c'est important à comprendre. Et ce sont des choses qui sont pas faciles au départ à comprendre. Parce que c'est vrai que, bon, on est de nouveau, bon, on est là, on reçoit le Seigneur, ouais, gloire à Dieu, mes péchés sont pardonnés, etc. Bon, certains, on entend le baptême du Saint-Esprit, on est baptisé d'esprit, d'autres, on est là, à droite, à gauche, dans différentes églises, on grandit plus ou moins dans le Seigneur, etc. Mais il y a des domaines dans lesquels on est complètement ignorant. Complètement ignorant. Et quand on est complètement ignorant dans certains domaines, ça nous crée des problèmes. Pas tout de suite. Au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, 20 ans des fois. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi dans ce domaine-là, je n'ai pas d'épanouissement selon ce que Dieu voudrait? Dans le domaine dans lequel Dieu voudrait que je m'épanouisse. Et il y a des raisons à tout ça. Il y a des raisons que Dieu veut nous donner parce que Dieu veut qu'on sorte de difficultés régulières financières. Qu'on passe par des crises, ça peut arriver à tout le monde. Comprenez-moi bien. On verra aussi qu'il y a des gens qui ont une mauvaise gestion parce qu'ils n'ont pas appris quand ils étaient jeunes, parce qu'on leur a rien appris. Et parfois, il y a des gens, ils sont bénis, vraiment, vraiment bénis. Ils perdent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer les choses. Et on se retrouve dans des situations encore plus difficiles. On se dit, mais tiens, pourquoi ça? On verra aussi que le diable peut attaquer nos finances et qu'on doit apprendre à se parer des attaques du diable concernant les finances. Satan peut parfois attaquer notre corps. Et nous devons savoir quoi faire. Et il faut qu'on sache aussi que Satan peut essayer aussi d'attaquer nos finances parfois. Et qu'il faut savoir comment se parer, comment résister. Comment voir des percées spirituelles et du monde spirituel vers le monde matériel. Et il y a des principes de la parole. Des principes qui sont donnés dans la parole de Dieu, qu'il faut que nous apprenions. Et ce sont des choses qu'il faut mettre en pratique et qui mettent du temps. Ça, le côté financier, c'est en général quelque chose qui met du temps. Il y a certains côtés, vous voyez, parfois, bon, on va enseigner sur certains sujets, et puis d'un seul coup, pouf, on reçoit ça, on dit, ah, évidemment, je savais pas ça. Et tu rentres tout de suite dans la dimension, tu dis, gloire à Dieu, c'est super. Il y a d'autres domaines, c'est plus long. Et le domaine financier, souvent, c'est plus long, parce que ça va demander une certaine consistance, c'est-à-dire une certaine régularité dans ce que tu fais, et ça va impliquer beaucoup d'autres domaines de ta vie spirituelle. Parce que on va voir que le fait de vouloir mettre en action notre prospérité, c'est aussi de faire attention à la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous donnons, bien sûr, la façon dont nous nous comportons d'une manière générale dans la vie, parce que vous savez comme moi que on est sujet à beaucoup de tracas financiers de droite et de gauche. Il y a des gens qui veulent nous extorquer de l'argent. On peut avoir tout un tas de problèmes. On peut manquer aussi de sagesse. Il y a des gens, par exemple, qui font des dettes partout, qui commencent à bien prospérer et d'un seul coup, ils prennent des dettes partout, 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 partout. Et au bout d'un moment, ils se cassent la figure gravement parce qu'ils ont pris des dettes et pourtant, ils donnaient leur dîme. Et il y a tout un tas de choses dans lesquelles il faut être prudent. Il y a de la sagesse à avoir. Il y a des choses que nous devons connaître qui sont aussi du bon sens et qui nous évitent de faire des erreurs. Parce que quand on fait trop d'erreurs, au bout d'un moment, ça nous fait mal et c'est normal. Et des fois, on met aussi la vie des autres en danger ou en tout cas, on peut leur créer un certain nombre de problèmes et on peut se créer un certain nombre de problèmes autour de nous. Donc, il faut apprendre. Il y a certains principes qui sont divins. On doit apprendre et petit à petit, eh bien, avec la parole de Dieu, on avance. On avance en sagesse, on avance en grâce, on avance en stature de spirituel et en même temps, on se développe, on apprend petit à petit. Il y a des gens, c'est vrai, quand on les voit gérer leurs finances, des fois, on se dit, mais ces gens-là, on a l'impression que tout leur réussit. Hein. Ils ont la main en or, en quelque sorte. Tout ce qu'ils touchent, ça devient de l'or. Il y a des gens qui sont doués pour ça. Des gens qui se débrouillent très, très bien facilement. Il y en a d'autres qui se débrouillent très mal. Hein. Mais ça peut changer et ça doit changer. Hein? Parce que des fois, on peut mal se débrouiller dans les finances et puis on peut être en très bonne santé. Et celui qui est peut-être à beaucoup d'art, entre guillemets, pour manipuler les finances, bah peut-être qu'il a d'autres problèmes au niveau santé ou dans d'autres domaines dans sa vie. Vous voyez? Donc, c'est important de connaître nos points forts, de connaître nos points faibles et d'apprendre à pratiquer la parole de Dieu et de marcher dans la parole de Dieu. OK? Alors, ensuite, donc, Paul va continuer dans ce texte. Donc, il nous donne verset 9, hein, on va pas le relire, cet aspect d'identification. Donc, ça, c'est pas l'aspect qui va m'intéresser là, puisqu'on l'a largement étudié, que Jésus s'est fait pauvre pour que nous puissions prospérer, pour que nous puissions être enrichis. Et il va donner aussi un principe au verset 12. Il va dire « Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a, mais non de ce qu'on n'a pas. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit « Bon, c'est bien de dire « J'aimerais donner au Seigneur », mais le mieux, c'est de le faire. Et il y a beaucoup de gens, ils ont un problème là-dessus. Ils disent, ah, mais moi, si j'étais comme celui-ci, là, qui roule dans sa voiture, je donnerais ma dîme au Seigneur. Mais pour l'instant, je peux pas faire ça. Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Hein. Dieu ne nous demande pas de lui donner une certaine somme. Dieu nous demande, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut aussi que nous soutenions son évangile, c'est clair. Il nous demande de donner selon nos moyens. C'est pour ça d'ailleurs que la dîme n'est pas un montant, mais c'est un pourcentage. Et il y a des gens, ils disent « Moi je suis pauvre, donc je laisse les riches donner ». Et ils font une grave erreur en faisant ça. Ils font une très grave erreur en faisant ça. Parce que si tu es pauvre et que tu veux sortir de la pauvreté, il faut que tu apprennes à donner déjà ce que tu as. Même si c'est ton 10 francs, ton 20 francs, peu importe. Mais si tu le fais et que tu apprends à le faire en mettant en place les principes de ta prospérité, tu passeras peut-être un peu plus de temps que quelqu'un qui démarre avec un niveau plus haut financier. Mais le même principe s'appliquera à toi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Tant que j'ai pas ça, alors je ne donnerai pas au Seigneur. » Et ça, c'est un mensonge du diable, terrible. Ah, tant que j'ai pas telle somme, oui, si Dieu me donne 1 million, il n'y a pas de problème, je donnerai 100 000 francs le prochain dimanche. Et vous savez, quand ces gens vivent ça, en général, ils ne le font pas. des gens qui ont une mentalité qui donneront pas 10 francs sur 100 francs, je vous garantis, même s'ils ont 1 million, ils donneront jamais les 100 000 francs. Pourquoi? Parce que c'est un problème de mentalité. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème de mentalité. Et il faut que les chrétiens comprennent qu'ils doivent commencer là où ils ont les moyens de commencer, c'est-à-dire là où ils en sont. Très important. Quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui comprend le principe du royaume de Dieu. Tu ne peux pas mettre en action ta foi avec du rien du tout. La foi sans action, nous dit la parole de Dieu, est morte. Et dans le domaine des finances, la Bible est claire. C'est l'aspect de donner qui est important. Avec, bien sûr, un certain nombre de conditions autour de la façon dont on donne. Mais quelqu'un qui dit toujours, moi j'attends d'avoir telle somme pour pouvoir faire ça, pour pouvoir donner au Seigneur, il se trompe lui-même. Vous savez, j'ai vu des gens comme ça, connaître les principes de la prière de la foi, prier les principes et voir vraiment Dieu agir, et quand ils recevaient leur bénédiction, emmener toute leur bénédiction. Et je vous garantis, avec une telle mentalité, ces gens-là sont retombés où ils étaient. Ils sont retombés où ils étaient. On va sauter directement au chapitre 9 qui m'intéresse. Vous êtes silencieux, très silencieux. Et là, on va aborder un des principes, parce qu'on parle de donner, d'accord? Mais il faut qu'on apprenne à savoir pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que Paul nous enseigne ici. Il nous dit, on parle toujours d'argent, rappelez-vous, de Corinthiens 8, de Corinthiens 9, on parle de sous. Tout ce passage parle de sous, de sous, de sous. Verset 6, en fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. La Bible est claire. Le premier principe qu'un chrétien doit savoir, c'est que notre argent, nos finances, c'est une semence. Ça, c'est quelque chose d'indispensable à connaître. Quand tu donnes au Seigneur, quand je donne au Seigneur, c'est une semence. Et la Bible est très, très claire là-dessus. Et la Bible prend cette analogie, cette illustration, c'est pas pour rien. Parce que c'est un principe, c'est une loi spirituelle. Quand nous donnons au Seigneur, nous semons dans le royaume de Dieu. Et là, il va y avoir des principes spirituels. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est comme la Bible compare ça, compare nos dons à une semence, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'idée de la semence dans la parole de Dieu. Regardez dans Genèse 1, c'est exactement ce que Dieu a dit au départ. Genèse chapitre 1, quand Dieu ravive les plantes, en quelque sorte, parce qu'elles étaient déjà dans la terre, dans la création pré-adamique, nous le savons, Dieu va recréer l'atmosphère pour que, justement, ces plantes puissent retrouver, hein, il va dégeler la terre, l'atmosphère est créée, et ces plantes vont pouvoir quoi faire? Elles vont pouvoir reprendre vie. Est-ce que Dieu a modifié certaines choses génétiques? Certainement, à voir. Il est dit, verset 11, puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes porteuses de semences, d'arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits, selon leur espèce, et ayant en eux leurs semences. Et il en fut ainsi. Comment est-ce que les végétaux se reproduisent? Parce que dans chaque végétaux, Dieu a prévu qu'il y ait une semence. Une semence et un principe de multiplication. Imaginez-vous si à chaque fois qu'on plantait une graine de haricot, on récoltait une graine de haricot. Je pense qu'il n'y aurait plus de haricots depuis très longtemps. Parce que normalement, Dieu a prévu une chose, que dans chaque plante qui existe sur la terre, il y ait en elle une semence de reproduction qui multiplie cette plante. Si je plante une graine de haricot, je ne veux pas récolter une graine de haricot, parce que sinon, j'avance pas. Ça, c'est faire du surplace. Si je mets une pomme de terre, cette pomme de terre va pourrir dans la terre, le plant va venir, Et si ce plan me produit une pomme de terre, ben ça m'intéresse pas beaucoup. Parce que je vais semer 50 kilos et je vais récolter 50 kilos. Mais entre-temps, j'aurai mis des efforts. J'aurai fourni du travail. Et ce travail sera donc nul. Improductif au total. Dieu a mis dans chaque plante une semence pour que cette plante puisse se reproduire et se multiplier. C'est un principe naturel. C'est un principe naturel. Et si on mange la semence, vous imaginez un paysan. Un paysan, qu'est-ce qu'il fait? S'il plante des pommes de terre, bon, mettons, il va planter 100 kilos de pommes de terre. Supposons, il récolte, disons, une tonne ou, je sais pas, 750 kilos, je sais pas, je connais pas le rendement des pommes de terre exactement. Certains parmi vous, vous le connaissez mieux que moi, peu importe. Bon, supposez qu'il ramène une tonne. Il est content, il a fait une super récolte, il est satisfait. Il se dit, bon, j'ai acheté 100 kilos de pommes de terre comme semence et j'en ramène 10 fois plus. Intéressant, bon rendement. Mais le paysan, c'est quelqu'un qui a faim. Supposez que le paysan mange tout ce qu'il a récolté. Mais à la fois d'après, qu'est-ce qu'il va semer? Il pourra rien semer. Et c'est le même principe avec nos revenus en tant que chrétien né de nouveau. Dans ce que tu produis, il y a une semence. Dans ce que tu produis, il y a une semence. Il y a une semence. Et il y a des chrétiens, tous les mois, ils mangent toutes leurs semences. Et ils jouent vraiment le jeu du diable et ils se coupent complètement de la bénédiction que Dieu a pour eux au niveau finance. Ils mangent tout. Tous les mois, ils terminent tout. Bon, s'il y a un petit reste quand même, les petites miettes, ils les donnent à Dieu, parfois. Les petites miettes de pain qui sont tombées. Oh, allez Seigneur, quand même, cette fois-ci, je vais être généreux envers toi, Seigneur. Je vais te donner quelque chose. Il y en a certains, c'est pratiquement ça. Et vous savez, c'est pas une bonne mentalité. C'est pas la mentalité du royaume. C'est pas du tout la mentalité du royaume. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne réalisent pas combien, en faisant ça, ils se bloquent, ils bloquent leur bénédiction, et ils resteront toujours dans les mêmes problèmes. Regardez ce que Dieu dit. Regardons Proverbe 3, verset 9. Proverbe 3, 9, on en terminera par là. C'est un verset qu'on commentera encore, parce que c'est un verset qui est puissant. Dieu dit dans sa parole, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices, c'est les premiers fruits. Les prémices, c'est pas ce qu'il reste en dernier. Parce que vous savez, on a toujours des besoins. Vous avez jamais remarqué ça? Et pour certains chrétiens, c'est un problème. C'est un gros problème. Ils disent, OK, bon, je vais vivre. Puis bon, je réserverai ma dîme pour le Seigneur à la fin du mois. Et on va voir. Et puis finalement, bah, on voit jamais rien, quoi. Et c'est normal. Et ils mangent leurs semences. Ils mangent leurs semences. Ils font comme ce paysan qui a récolté sa tonne de pommes de terre et qui mange sa tonne de pommes de terre. Et après, il n'a plus rien et il meurt de famine. Et beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas que dans leur revenu, il y a une semence. Oh, peut-être que tu ne le verras pas. Vous savez, un paysan, quand il sème, hein, ça me fait penser à mon fils. J'ai un de mes fils et il aime bien planter des trucs comme ça. Alors, pendant une période, ils étaient deux avec mes deux plus petits, là. Ils avaient planté des pommes de terre. Et alors, tous les jours, ils allaient déterrer la pomme de terre pour savoir si elle avait poussé. Alors nous, ça nous fait rire. Ils me disaient, ah, oh, papa, j'ai été voir, mais la pomme de terre, elle n'a pas poussé aujourd'hui. Je dis, non, mais depuis hier, non, pas vraiment. Tu ne la vois pas. Et il faut être clair. Il y a des chrétiens, ils entendent le message sur la dîme. Ils disent, ah, d'accord. Ah, ce mois-ci, je vais donner au Seigneur. Et puis, le 3 du mois suivant, ils disent, mais alors Seigneur, j'ai toujours les mêmes difficultés. Ça ne va pas encore, financièrement. Non, mais doucement. Tu sèmes. Et tu vas semer dans de bonnes conditions. Et tu vas voir, il y a un jour de la récolte, mais le paysan, il va pas récolter le lendemain en général. Et c'est pour ça. Et c'est un peu trompeur parce que parfois certaines personnes, on entend des témoignages en disant oui, vraiment, j'avais prié le Seigneur, j'avais demandé au Seigneur qu'il me donne 1000 dollars et c'est super. Vraiment, quelqu'un est venu, il m'a donné ça. C'est vraiment miraculeux. Et t'entends le témoignage partout et tu dis, et moi, qu'est-ce que t'as fait? Comment tu as prié? Quelle est la recette? Et les gens commencent à vouloir marcher avec des recettes. Je voudrais pas faire un sondage parmi vous, mais certains, je suis sûr que vous avez prié un jour, la prière de la foi, et vous avez vraiment vu Dieu vous bénir d'une façon particulière. Mais vous avez peut-être pas pratiqué les bons principes. Et aujourd'hui, il reste plus rien. Eh ouais, parce que on s'est fait avoir. Et souvent, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pratiqué les principes de donner au Seigneur. On a mangé la semence. Et comme on mange la semence, eh bien après on se retrouve dans les mêmes difficultés. Et parfois Dieu nous sort de situations catastrophiques miraculeusement. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous y retournons nous-mêmes parce qu'on pratique pas les principes de la parole. On continuera la prochaine fois.